Organiser sa transmission en optimisant sa succession avec meilleur placement.
Voilà, on se retrouve pour cette matinale de Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants qui est consacré à la transmission. Jusqu'à présent, on a parlé effectivement des dons, on a parlé de la succession, on a moins parlé de la fiscalité qui sont liées à ces opérations. Et bien justement, on va s'attacher avec l'atelier qui suit, voir comment on peut réduire les futurs droits de succession de ces héritiers. Maxime Marcon, bonjour. Vous êtes responsable commercial chez Meilleur Placement. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, Meilleur Placement ?
Oui, avec plaisir. Meilleur Placement, donc, c'est un acteur de l'épargne qui fait partie aujourd'hui du groupe Meilleur Taux. Donc, on est la branche courtage placement du groupe Meilleur Taux avec trois rôles, trois ambitions, informer, comparer et accompagner. Informé, on le fait dans le cadre aujourd'hui de cette émission notamment, mais notamment également avec nos newsletters quotidiennes qui décryptent un petit peu l'actualité économique et macroéconomique. Comparer, c'est notre force avec, je dirais, notre statut d'indépendant. On a accès vraiment à toutes les solutions. On peut, aller voir qui sont les plus à même de répondre à nos critères. Et accompagné par aujourd'hui plus de 30 conseillers en gestion de patrimoine, en agence ou au téléphone, au travers d'une gamme qui répond à l'ensemble de nos critères. Et on accompagne du coup sur l'ensemble des thématiques patrimoniales, donc le civil, le fiscal, le successoral, le financier, l'immobilier. On est à même de vous accompagner sur tous les sujets qui concernent votre argent.
D'accord. Et bien là, cette fois-ci, on va s'intéresser à la succession. Maxime, comment se déroule une succession ? Concrètement, qu'est-ce qui se passe après le décès d'une personne ?
Alors, en général, on va faire appel à un notaire. D'ailleurs, c'est obligatoire pour toute succession supérieure pour tout actif supérieur à 50 000 euros ou dès lors qu'il y a un bien immobilier. Et ce premier rendez-vous de notaire va permettre de constituer ce qu'on appelle l'acte de notoriété. C'est qui doit hériter, donc de recomposer un peu les différents héritiers, que ce soit selon la situation familiale du défunt, s'il était marié, s'il avait des enfants, s'il avait ses frères et sœurs, ses parents. Le notaire doit mettre en place un peu tout ça pour savoir qui sont les héritiers légaux du défunt.
D'accord. Donc en fait, dans un premier temps, avant même de parler de l'actif successoral du patrimoine, on essaie de délimiter le périmètre des héritiers. Ça veut dire que on peut aussi envoyer des enquêteurs, enfin bon, parce que des fois il peut y avoir des familles qui sont réparties sur le globe. Ça peut prendre un certain temps, ce premier travail.
Ça peut, si on n'a pas la photo rapide de l'ensemble de la famille. Oui, le notaire peut avoir des démarches auprès de généalogistes pour retrouver les proches si besoin. Une fois qu'on a la photo de famille complète, il faut faire la photo du patrimoine, effectivement, donc savoir tous les biens qui appartenaient au défunt, pour qu'on puisse en faire un listing et qu'on ait l'actif successoral du défunt, donc la photo de l'ensemble des choses qu'il détenait.
Donc il y a tout qui compte, y compris la voiture, y compris les meubles.
Exactement.
Il n'y a pas juste les biens immobiliers, il n'y a pas juste les placements, il y a vraiment tout.
C'est ça. Alors, pour les placements, c'est facile d'en donner une valeur. Mais pour le mobilier, on peut faire expertiser chaque bien, chaque tableau, bibelot. Effectivement, tout compte dans la succession. Alors, on peut prendre des forfaits, mais en général, on fait un inventaire de l'ensemble des meubles et des immeubles que détenait le défunt. Une fois qu'on a cet actif successoral qui est établi, il faut qu'on puisse en faire le partage. Alors, je dirais qu'il va se passer en deux temps. On va d'abord donner une valeur à tout cet actif, donc la masse successorale. C'est vraiment la valeur de l'ensemble du patrimoine que détenait le défunt. Et juste de manière financière, on va approprier ou décomposer ces sommes-là, cette somme-là, entre les différents héritiers. Et chacun a plus ou moins de droits. Ça, c'est le code civil qui le régit. Le conjoint survivant, les enfants. Selon la photo familiale, on va pouvoir définir en valeur ce que doit récupérer chaque héritier.
D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, d'abord, on parle de l'actif net successoral, hein, c'est-à-dire net des créances, des éventuelles dettes. Quand je dis les dettes, ça peut être aussi l'impôt sur le revenu.
Absolument.
Ça peut être les crédits immobiliers en cours. Enfin, ça peut être tout ça. Et puis, effectivement, en fait, il y a des priorisations des héritiers. En gros, c'est quoi ? C'est, il faut savoir que en France, ce sont les enfants, en fait, qui sont prioritaires.
C'est ça.
En fait,
on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc, il y a obligatoirement une part qui va aux enfants. S'il y a un conjoint, il y a une autre part qui va au conjoint. Et selon les cadres et les situations, mais on peut avoir les frères et sœurs en l'absence d'enfants et de conjoints. On peut avoir les parents. Et si vraiment il n'y a personne pour bénéficier de cette succession, c'est l'État.
D'accord. Alors, comment sont calculés les fameux droits de succession ?
Alors, une fois qu'on a cet actif successoral, alors la dernière étape, juste pour terminer sur les étapes, c'est que ensuite on va faire le partage. Et comme chaque bien n'a pas forcément une valeur divisible, on va alloter les choses. Donc chacun va repartir avec des objets ou de l'épargne financière pour essayer de arriver exactement à la somme en euros qui devait lui revenir. Si jamais on a des écarts, par exemple on a une voiture qui vaut plus cher que le reste, on s'arrange entre bénéficiaires de la succession.
Oui, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les enfants doivent... Alors après, on en parlera aussi, parce qu'il y a la quotité disponible que le parent peut utiliser. Mais autrement, effectivement, dans ce qu'on appelle la réserve héréditaire, les parts sont égales. C'est-à-dire que non seulement les enfants sont prioritaires dans la succession, mais chaque enfant doit recevoir la même chose. Or, des fois, c'est un peu difficile. Ça veut dire que, par exemple, un frère peut être amené à donner de l'argent à sa sœur qui a peut-être reçu moins que lui, par
c'est
exemple.
Ça peut se passer comme ça. En fait, il faut juste que les sommes au total soient égales, mais peu importe que ce soit sur un bien immobilier ou sur de l'épargne financière.
Okay.
Effectivement, la réserve héréditaire, chaque enfant doit toucher au moins une quotité qui est définie par le Code civil. Au-delà de cette réserve héréditaire, on a la quotité disponible, qui peut d'ailleurs permettre à un parent de favoriser un des enfants dans la limite de cette quotité disponible. L'enfant qu'on voudra éventuellement délaisser, lui aura au moins sa réserve héréditaire.
D'accord. Donc là, on a parlé du partage. Donc maintenant que le partage est fait, il y a des droits qui ça s'applique sur les legs effectués.
Exactement. Alors, on va soumettre l'actif transmis à un barème. Ce barème, vous allez avoir un abattement sur le barème en fonction de votre lien de parenté. Pour les enfants, par exemple, on a un abattement de 100 000 euros. Et une fois qu'on a déduit cet abattement-là, on soumet ce qu'il reste à un barème successoral, un peu comme l'impôt, c'est progressif. Plus on a d'argent transmis, plus on paye de droits de succession, de droits de mutation. Et pour retenir, en gros, la tranche la plus importante, c'est entre 15 000 euros et 550 000 euros, les droits de mutation s'élèvent à 20%. On a des petites tranches de 0 à 15 000 et là, la grosse tranche en général, c'est 15 000, 500 000, 20%.
D'accord, donc ce sont des sommes conséquentes. Comment peut-on faire baisser, voire même annuler les droits de succession que ces héritiers devront à payer une fois qu'on sera décédé ?
Alors on a deux facteurs. Essayer de minimiser ce qu'on transmet à son décès et utiliser des enveloppes spécifiques dédiées à cette transmission. Pour minimiser ce qu'on transmet, il faut préparer les choses et donner de son vivant. Donner de son vivant, ça permet de sortir des choses de son actif futur successoral et donc de minimiser ce qui sera soumis au barème successoral.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que on l'a dit avant, hein, les donations sont rapportées à la succession. Clairement, prenons une fratrie, si un fils a reçu quelque chose, c'est pris en compte dans sa part réservataire. En revanche, il aura pas de droit de succession à payer puisqu'il y a eu des droits de donation.
C'est ça. Et en fait, le but du jeu pour réduire un peu ces droits, c'est d'utiliser au maximum ces abattements. Alors, l'abattement de 100 000 euros, c'est un abattement qui est commun entre les donations et les successions. C'est-à-dire que si je donne aujourd'hui et que je décède demain, finalement, j'aurai pas deux fois cet abattement de 100 000 euros. En revanche, cet abattement se reconstruit au bout de 15 ans. Et là, si je reprends mon exemple, je donne aujourd'hui 100 000 euros, je meurs dans 15 ans et un jour, j'aurai à nouveau, mon héritier, mon enfant, aura à nouveau cet abattement de 100 000 euros. C'est tout l'intérêt, justement, de donner le plus rapidement possible pour essayer de reconstruire plusieurs fois, si on le peut, cet abattement de 100 000 euros.
Voilà, au lieu de l'utiliser une fois, on l'utilise plusieurs fois, en sachant aussi que l'abattement, c'est par an. Donc, quand il y a une donation, il y a un abattement de 100 000 euros du père et 200 000 euros de la mère. Donc, ça fait un abattement total de 200 000 euros.
200 000 euros par enfant.
Par enfant.
Donc, effectivement, plus on a d'enfants, plus on peut donner. On a un abattement pour les petits-enfants également, 31 865 euros par parent également, par petits-enfants. Donc, ça permet effectivement de se délester un petit peu, de s'appauvrir de son patrimoine. Alors là où il faut être vigilant, c'est que, bah, justement, on s'est appauvri. Donc, il faut vraiment ne pas avoir besoin de ces fonds, en tout cas, se projeter à ne pas en avoir besoin. Et je dirais que le risque dans ces cas-là, c'est un peu le risque de longue vie. La longue vie peut coûter cher, la dépendance peut coûter cher. Donc il faut essayer de le prendre en compte en se disant « je ne voudrais pas avoir à retourner vers mes enfants plus tard pour leur demander un peu d'argent si j'en avais besoin ». Donc c'est un peu la limite de ces donations-là.
On a parlé du démembrement beaucoup ce matin. Je pense que les internautes maintenant savent enfin ce que c'est le démembrement. Est-ce que ça peut être une solution, ça, justement, pour éviter le démembrement, c'est-à-dire donner, en fait, la nue propriété à l'enfant et il récupérera la pleine propriété à votre décès. Et puis, pendant que vous êtes vivant, en fait, vous bénéficiez de l'usufruit du bien donné.
Absolument, ouais, c'est très bien résumé.
Merci.
On va effectivement pouvoir se protéger grâce à cette donation démembrée. Je vais donner un bien, mais de manière démembrée. Alors effectivement, ça se sépare entre l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit étant le droit de l'user, de l'utiliser, d'en jouir des revenus. La nue propriété étant un droit futur de pleine propriété. Ça me permet de donner sur une valeur fiscale moins importante que la valeur du bien. Alors, je vais prendre des exemples, ce sera plus parlant. Si un bien immobilier vaut 100, si j'en donne la nue propriété, bah, finalement, cette nue propriété, il lui manque un bout, donc elle ne vaut pas 100. Et ce droit d'usufruit et ce droit de nue propriété, cette valeur va dépendre de mon âge, moi, usufruitier, puisque plus je suis jeune, plus je vais techniquement, théoriquement, en profiter pendant de nombreuses années. Donc, il y a un tableau, hein, entre 50 et 60 ans, c'est 50% l'usufruit de la nue propriété. Et plus je passe des dizaines, moins mon usufruit vaut de l'argent. 50-60, c'est 50%. 60-70, c'est 40% mon usufruit, donc 60% la nue propriété, et ainsi de suite. On perd 10%. Toutes les dizaines d'années. Donc effectivement, c'est une bonne solution. La valeur fiscale de ce que je transmets est moins importante. Et à mon décès, l'usufruit rejoint la nue propriété sans aucun droit de succession, sans passer par la case succession. Donc mon bien immobilier que j'ai donné sur une valeur 100, j'ai donné à mes 55 ans, fiscalement, j'ai utilisé 50 de mon abattement. À mon décès, mon usufruit rejoint la pleine propriété et mon enfant n'a aucun droit à payer sur la pleine propriété du bien.
Donc c'est très intéressant. Vous avez parlé des donations du vivant, on a parlé des donations démembrées. Quel autre moyen pour réduire, voire annuler les frais de succession de ses héritiers ?
Alors là, on va évoquer une enveloppe qui est très connue, qui répond à pas mal d'objectifs, qui est l'assurance vie, le couteau suisse de l'épargne, qui est très apprécié d'ailleurs des épargnants français. C'est une enveloppe qui, au-delà de l'aspect financier, parce que premièrement, ça permet de placer son argent et de mesurer le risque et de contrôler le risque à l'intérieur avec du fonds en euros, des unités de compte boursières, des unités de compte immobilières. Tout ça, je peux le gérer de mon vivant et c'est déjà une première enveloppe agréable pour ça. Au-delà de ça, sur le plan civil, l'assurance vie ne fait pas partie de la succession, donc elle ne fera pas partie de l'actif successoral. Donc elle sort du champ de ce qu'on vient d'évoquer. Et je peux désigner les bénéficiaires de mon contrat qui bénéficieront du capital le jour de mon décès. Donc le contrat sera cassé et le capital sera transmis à mes bénéficiaires. Et ils auront droit à un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire le jour où les capitaux seront transmis. Donc,
Quel point de vigilance on doit avoir justement au sujet des avantages successoraux de l'assurance vie ?
Alors il y a un gros point de vigilance, c'est l'âge auquel je vais verser sur mon contrat d'assurance vie. L'abattement que je viens d'évoquer, 152 500 euros par bénéficiaire, c'est pour tous les versements réalisés avant mes 70 ans. Avant 70 ans, il faut absolument essayer de réorienter un maximum de son épargne sur des contrats d'assurance vie. Je vais pouvoir faire évoluer ma clause bénéficiaire comme bon me semble dans le temps, mais au moins j'aurai cet avantage civil qui sera enregistré, sauvegardé. Je rappelle que cet abattement, c'est par assuré. Le père, la mère peuvent bénéficier de cet abattement et on le multiplie par le nombre de bénéficiaires. Ça peut être les enfants comme les petits-enfants, comme quelqu'un qui n'est pas du tout... avec qui je n'ai aucun lien de parenté. Passé 70 ans, je vais avoir une règle un peu différente. Je n'ai plus cet abattement de 152 500 euros réparti pour tous les bénéficiaires, mais j'ai un abattement de 30 500 euros qui se cumule avec celui de 152 500, mais qui est à partager entre tous les bénéficiaires. Donc, j'ai vraiment moins d'avantages civils passé 70 ans, puisque j'ai 30 000 euros qui se répartissent. Si j'ai trois bénéficiaires, chacun aura 10 000 euros. Je suis loin d'être optimal en termes de réduction de droits de succession.
D'accord. Alors, vous me dites que l'assurance vie est hors succession. Donc, du coup, je me dis, c'est super, je vais mettre tout mon patrimoine sur un ou des contrats d'assurance vie. Et puis comme ça, j'aurai quasiment pas d'actif successoral. Il y aura quasiment pas de droits de succession. Est-ce que c'est possible, ça ?
Alors, il faut être vigilant. Il y a certaines règles quand même. Premièrement, on l'a dit, on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc, je ne peux pas faire en sorte, avec mon contrat d'assurance vie, que mes enfants ne touchent pas leur part réservataire. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Et le deuxième point, on a ce qu'on appelle les primes manifestement exagérées. C'est je fais en sorte que tout mon patrimoine soit en contrat d'assurance vie pour justement éluder l'impôt, qui est mon seul objectif. Si ça se fait... la veille ou l'avant-veille de mon décès, on pourra se douter quand même que le seul objectif était fiscal. Si je le construis tout au long de ma vie et que je verse sur des contrats tout au long de ma vie, je peux avoir une proportion importante sur mes contrats d'assurance vie, mais il ne faut pas faire ça du jour au lendemain juste pour se dire « Tiens, on m'a décelé une maladie grave, je vais tout mettre en assurance vie et au moins je suis tranquille ».
Et il faut que ça soit dans des proportions raisonnables, c'est-à-dire que par rapport à ses revenus et par rapport à son patrimoine, il faut que ça soit quand même des sommes qui ne soient pas trop importantes.
Oui, c'est ça.
Voilà, parce qu'autrement, ça peut être requalifié comme effectivement un héritage par les héritiers. Pour simplifier les choses, effectivement, vous avez parlé des primes versées avant 70 ans et des primes versées après 70 ans. On a vu que, effectivement, après 70 ans, grosso modo, les avantages successoraux de l'assurance vie sont moins intéressants. Est-ce que c'est pas plus simple, une fois que j'ai 70 ans, d'ouvrir un nouveau contrat ?
Si, complètement. Vous devriez être conseillé. si, il faut.
Ah bon, parce que j'allais dire. Non, parce que j'ai pas 70 ans, que les choses soient claires.
Il faut séparer les choses, c'est plus simple. C'est plus simple. Alors, pour l'assureur, déjà, mais bon, ça, à la limite, il en fait son affaire. Mais c'est aussi plus utile dans le sens où, au moins, moi, je sais où sont les limites de ma succession, comment traiter mes bénéficiaires, etc. Et le gros point, c'est que j'ouvre un contrat. Je n'ouvre pas de contrat et je verse sur mes contrats avant 70 ans à 75 ans. Si à 85 ans, j'ai un besoin et que je retire sur mon contrat, en fait, l'assureur va considérer que je retire un bout versé après et un bout versé avant. Donc, je perds un avantage certain d'avoir versé avant. Ce qui n'est pas le cas si je souscris un contrat passé 70 ans. Là, je pourrais retirer. Ce ne sera uniquement que des primes après 70 ans que je retirerai.
OK, très bien, parfait. Et bien maintenant, on va passer aux questions des internautes.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.
– Alors, je rappelle qu'il y a deux façons de poser des questions. Il y a des... Vous pouvez, chers internautes, poser des questions en amont. Quand vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous avez la possibilité de poser une question. Et puis, et c'est tout l'intérêt du live, vous pouvez poser vos questions en direct grâce au chat. Alors, justement, une question du chat que je découvre et qui est un peu longue. Conjoint marié ou paxé, avec ou sans testament, le conjoint hérite de quelle partie de la succession? Voilà. Par rapport, voilà, est-ce qu'il y a une différence entre les conjoints mariés et les partenaires de pax vis-à-vis de la succession?
Alors, c'est effectivement une question importante. Les partenaires de pax ne sont pas héritiers tant qu'on n'a pas de testament. Donc, il est très important pour les gens paxés de réaliser, s'ils souhaitent se protéger mutuellement, évidemment, de réaliser un testament qui va permettre, du coup, aux partenaires d'hériter et d'hériter dans les mêmes conditions que les conjoints, c'est-à-dire sans aucun droit de succession. Je le rappelle, c'est vrai qu'on ne l'a pas reprécisé, mais les droits de succession sont nuls depuis 2007 entre conjoints survivants.
D'accord. Et donc on est dans cette configuration-là. Le conjoint marié ou le partenaire de pax, il peut hériter de combien du patrimoine?
Alors, il a souvent deux options. Soit il va pouvoir opter pour 100% du patrimoine en usufruit, donc il pourra jouir et utiliser 100% de l'actif successoral de son partenaire ou de son conjoint décédé, soit il décide de prendre un quart en pleine propriété, un quart de l'actif, et de laisser les trois quarts, généralement, aux enfants.
D'accord. Un quart, c'est appliqué par défaut, c'est-à-dire que pour bénéficier de l'usufruit, il faut le dire au notaire, et je crois que ce n'est pas possible s'il y a eu remariage.
C'est ça. Si on a remariage ou si on a des enfants d'un autre lit qui n'est pas commun au mariage, effectivement, on a des choix qui sont restreints.
Autre question des internautes sur le chat. Alors, visiblement, l'internaute a un conjoint, a trois enfants, et se demande quelle est la part de son patrimoine qu'il va pouvoir léguer à ses neveux.
Alors, en présence de trois enfants, chaque enfant devra avoir un quart de la succession. Donc, on a trois quarts qui est réservé aux enfants. Et il a un quart de quotité disponible.
D'accord. Et donc, dans cette quotité disponible-là, il peut désigner ses neveux et nièces comme bénéficiaires de
l'aide. Ça, c'est sur le champ civil. Je rappelle qu'il peut aussi souscrire un contrat d'assurance vie et faire bénéficier son neveu de son contrat d'assurance vie. Il aura d'ailleurs moins de droits de succession, puisque entre neveu et nièce, le barème des droits de succession est assez élevé.
D'accord, donc plutôt un contrat d'assurance vie plutôt que le testament.
C'est ça.
D'accord. Là, c'est le cas d'un père disparu qui a délaissé deux enfants et qui a fondé une nouvelle famille avec enfants. En cas de décès, les enfants du premier lit ne seront pas informés. Comment le notaire aura-t-il connaissance des deux premiers enfants si la deuxième famille l'était? C'est-à-dire, ignore la présence des premiers enfants.
Alors, normalement, on transmet le livret de famille. Et dans le livret de famille, on a la présence des enfants. C'est la responsabilité du notaire de retrouver la famille et donc les enfants du défunt. Le notaire va devoir faire les démarches pour retrouver les enfants.
D'accord, donc a priori, les enfants seront retrouvés. Est-ce que les enfants, en l'espèce du premier lit, ils vont peut-être être informés du décès de leur géniteur? Est-ce qu'ils doivent se déclarer au notaire? Est-ce qu'ils peuvent justement montrer leur existence?
Alors oui, ils peuvent aller consulter, eux, un notaire. On peut avoir plusieurs notaires sur une succession, puisqu'ils n'ont pas, peut-être pas connaissance du notaire en charge de la succession de leur père. Le mieux est d'aller voir leur notaire ou un notaire pour ouvrir une succession, et les notaires, après, vont communiquer entre eux.
Quel régime, alors ça c'est une question qui avait été posée en amont, quel régime matrimonial faut-il choisir?
Alors, c'est une question délicate, mais je pense qu'il faut choisir celui qui correspond à notre mode de vie. Et il ne faut pas avoir peur de, pourquoi pas, le modifier dans le temps. On a, en gros, trois grands régimes. Un régime séparatiste, chacun a son patrimoine, et il n'y a pas de patrimoine commun. Un régime commun, tout est commun. la communauté universelle, et un régime qui lie un peu les deux. Tout ce qu'on a fait avant le mariage, c'est chacun à soi, et tout ce qu'on construit pendant le mariage, c'est commun. Je pense qu'il faut adapter son régime matrimonial en fonction de sa vie. On peut avoir un dirigeant, une dirigeante qui peut vouloir protéger les actifs de son conjoint et donc plutôt faire une séparation de biens. On peut avoir une volonté commune de finalement tout mettre en commun et donc d'opter pour une communauté universelle. Donc ça, il faut l'adapter en fonction de ses objectifs et de son mode de vie.
D'accord. Il faut juste rappeler que le régime par défaut est le régime de la communauté des biens réduite aux acquis, hein, c'est-à-dire que tous les biens sont en commun sauf les biens qu'on a reçus avant le mariage et qu'on reçoit par don et par legs. Donc ça, c'est de toute façon, c'est appliqué par défaut. Les autres régimes, il faut passer devant un notaire. Voilà. Et ce que vous venez de me dire, c'est qu'en fait, on peut faire évoluer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a commencé par un régime de communauté des biens que là, ça y est, c'est intangible. On peut très bien le transformer plus tard. Enfin, là, je prends cet exemple-là en régime de séparation des biens.
Absolument.
Ouais. D'accord. D'accord. Donc ça, il faut pas hésiter. On passe devant chez le notaire. J'imagine que bien sûr, les deux membres du couple doivent être d'accord.
Absolument.
Forcément. Voilà.
Et si je passe d'un régime séparatiste à un régime de communauté, le notaire va aussi interroger les enfants.
D'accord. Question par chat d'un ou d'une internaute. Lors d'un décès sans testament, en présence de quatre enfants, il y a deux ex-épouses. Alors, il y en a une qui est remariée et l'autre qui n'est pas remariée. Eh bien, ces ex-épouses, quelle part du patrimoine elles peuvent prétendre ?
Alors, c'est des questions délicates. La première femme ne sera pas héritière puisqu'ils sont divorcés. Donc c'est la femme actuelle qui va avoir des options. Alors en l'occurrence, on a des enfants non communs. Donc elle n'aura qu'une option, c'est un quart en pleine propriété.
D'accord, très bien, parfait. Faut-il mentionner son assurance vie dans son testament ?
Alors c'est une question qui fait débat, mais la Cour de cassation a jugé dernièrement que même si... théoriquement, le testament fait force sur l'assurance vie. Finalement, la clause bénéficiaire, elle fait force sur le testament. Ça a été jugé dernièrement, en 2019. Donc, je dirais qu'on peut rédiger son testament et indiquer les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie dans le testament. L'idéal étant de se faire accompagner par un notaire pour ces démarches-là, pour être certain d'avoir exactement ce qu'on souhaite. On peut les indiquer, mais il faut être vigilant sur certains points. Donc, passer devant le notaire pour ce testament-là.
D'accord. Beaucoup de questions par chat. Est-ce que... Alors, je pense que c'est important, en fait, comme question. Vous avez répondu, mais je pense que c'est encore mieux d'y répondre directement, encore plus clairement. Est-ce que l'abattement de 100 000 euros de la succession se cumule avec les 152 500 euros de l'assurance vie ?
Oui. On peut cumuler... en fait, vous avez l'abattement du droit civil, 100 000 euros, l'abattement du code des assurances, 152 500 euros, et on peut rajouter l'abattement pour les versements après 70 ans, 30 500 euros. Tous ces abattements se cumulent. On a également un abattement pour don de sommes d'argent qui peut se cumuler aussi. C'est une forme de donation particulière qui est autour de 30 000 euros. Je peux donner et je n'utiliserai pas mon abattement de 100 000 euros si je donne 30 000 euros à mes enfants en somme d'argent.
D'accord. Que se passe-t-il quand l'ascendant a des dettes ? Sont-elles transmissibles ?
Alors, par défaut, oui, mais on a plusieurs choix quand on accepte une succession. Alors déjà, on peut la refuser si les dettes sont supérieures à l'actif. On peut l'accepter ou on peut l'accepter à concurrence de l'actif net, c'est-à-dire je veux bien la prendre, mais seulement s'il reste quelque chose une fois qu'on a payé les dettes.
D'accord, parce qu'en fait, il faut faire le... Quand on fait le choix, on connaît le montant de la dette ou pas ? Parce que
non.
Forcément... Ah oui, c'est ça.
Non, alors on peut connaître, on peut avoir des dettes cachées. Mmh. Donc l'idéal étant d'accepter à concurrence de l'actif net.
D'accord.
Comme ça, au moins, on est certain de ne pas avoir de mauvaises surprises.
D'accord, très bien. Vous en avez parlé un petit peu, mais je pense que c'est bien d'y revenir. Qu'est-ce que le démembrement de la clause bénéficiaire ?
Alors effectivement, on peut démembrer un bien immobilier, on l'a dit, et donner en nue propriété. On peut avoir la même démarche sur le contrat d'assurance vie. Alors attention, je ne donne pas une clause bénéficiaire. Hein, c'est vraiment au jour de mon décès, le contrat est cassé et les capitaux sont transmis de manière démembrée. Donc je vais désigner un usufruitier de mon capital et un nu propriétaire du capital. En général, on va vouloir protéger le conjoint, donc on va désigner le conjoint en usufruitier du capital et les enfants ou l'enfant nu propriétaire du capital. Alors il faut la rédiger avec soin. En général, il est opportun d'y inclure une clause de quasi-usufruit, notion peut-être un peu plus complexe, mais pour résumer, ça permet au conjoint survivant d'utiliser les fonds comme bon lui semble, puisque c'est un bien qu'on appelle consomptible, une somme d'argent, on ne peut pas en profiter sans le dépenser. Si je prends une image, c'est comme la bouteille de vin. Si j'ai l'usufruit d'une bouteille de vin, je ne peux pas en profiter sans la boire. Donc la somme d'argent, c'est pareil. Charge à l'usufruitier à son décès de rendre la nue propriété, donc ce qu'elle a consommé, et ça viendra se prendre sur son actif successoral. Donc ça fait naître une créance envers les nus propriétaires. Donc c'est une bonne solution pour commencer à transmettre à ses enfants tout en protégeant son conjoint survivant.
D'accord, parfait, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci pour toutes, pour toutes ces informations. C'était très intéressant et c'était très clair. Merci beaucoup, Maxime.
Merci à vous.
Chers internautes, on se retrouve demain pour une nouvelle matinale. On va parler, on va se demander comment rendre son épargne utile, comment soutenir les entreprises grâce à son épargne. Bonne journée et à demain.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.